10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré,
Johan Usaï,
Mickaël Darmon.
Stéphane Séjourné, bonjour.
Bonjour.
Samedi soir, c'était les victoires de la musique et le temps de la colère pour une nouvelle génération d'artistes qui n'en peuvent plus de cette violence faite aux femmes et aux jeunes. On regarde, on écoute Pomme, sacrée artiste féminine.
J'espère que cette industrie sera de plus en plus safe pour les femmes et que cette nouvelle génération de femmes saura s'imposer et renverser les codes qui ne sont pas toujours faciles pour les femmes.
Alors, elle a beaucoup protesté. Vous avez 35 ans. De là où vous êtes au pouvoir, est-ce que vous entendez la colère de cette jeunesse et de ces artistes qui, au fond, expriment une colère que beaucoup d'anonymes vivent ?
C'est une génération d'engagés. C'est une nouvelle génération de la scène engagée. Et ça fait aussi du bien de voir que cette génération, elle bouge. Et puis, c'est pas facile aujourd'hui d'être jeune. On va parler sûrement de la crise sanitaire.
Il y a
des sujets qui se sont en train d'émerger avec une libération de la parole. Il faut faire attention à ce que, d'ailleurs, la justice ne se fasse pas sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, il y a des engagés dans le milieu culturel et c'est une bonne chose. Et puis, il y a de la colère. Et puis, des fois, il y a aussi de l'espoir. Et quand on regarde ces artistes, je trouve qu'il y a de l'espoir dans la notre jeunesse.
Alors, on verra comment vous allez y répondre. Vous êtes député européen, Stéphane Séjourné. Cette Europe, justement, de la liberté de circulation que cette jeunesse plébiscite, vit aujourd'hui barricadée contre le Covid-19. C'était depuis un an maintenant, l'enfer, c'est les autres. Dans ce quinquennat traversé par beaucoup de crises, cette pandémie accélère des mutations en cours et viendra à la fin interroger un principe en politique. Est-ce que les crises préparent les alternances? Est-ce qu'on va vérifier, ça va se vérifier en 2022? Comment, de votre point de vue, vous allez l'éviter? Le grand public vous découvre, Stéphane Séjourné, vous êtes un compagnon de route, un compagnon de marche, on pourrait dire, du président de la République. Vous avez fait vos classes au Parti Socialiste, tendance gauche du gouvernement. Député européen, vous faites partie de la petite équipe autour d'Emmanuel Macron, chargée de dessiner les contours de la nouvelle campagne présidentielle. Comment retrouver l'attrait et la ferveur de 2017? C'est votre défi. On va en parler ce matin. Pour ce grand rendez-vous, je salue Nicolas Barré des Échos, Johan Usaï de CNews, qui commence cette émission.
Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Ces journées. Face à la progression des variants en Moselle, c'est le statu quo, pas de fermeture des écoles, pas de confinement, et les élus locaux qui sont très déçus. Écoutez François Grosdidier, maire de Metz.
Nous demandions l'avancée des vacances d'une semaine. Tous les élus à l'unanimité, on était persuadés qu'on allait nous l'annoncer hier. On soupçonne qu'on ne veut même pas de confinement local et que du couvre-feu, parce que le confinement suppose à ce moment-là la prise en charge du chômage partiel et des incidences dont Bercy ne veut pas.
Les élus locaux étaient unanimes, ils voulaient des mesures supplémentaires. Pourquoi ne sont-ils pas écoutés?
Bon, je crois qu'il y a une vigilance permanente de la part du gouvernement. Il y a des mesures proportionnées qui sont prises systématiquement. Le ministre, d'ailleurs, de la Santé s'est rendu sur place pour constater. Moi, je fais confiance à Olivier Véran sur tous ces sujets. Et quand il y a des décisions compliquées à prendre, le gouvernement les prend. Et donc là, on est dans une situation d'observation. Et je crois que les mesures proportionnées sont prises. Il y a eu des annonces. On a augmenté le nombre de tests. Il y a des annonces aussi sur l'accélération de la politique vaccinale sur ces sujets-là. Donc je crois qu'il faut regarder attentivement ce qui se passe en Moselle, puisque ça aussi des situations qui peuvent se démultiplier partout en France, mais faire attention aussi à garder toute la proportion des mesures.
Donc il y a un niveau d'alerte, vous dites quand même.
Oui, il y a un niveau d'alerte, comme je vous disais, c'est une vigilance permanente de la part du gouvernement. C'est d'ailleurs depuis la décision du président de la République de ne pas reconfiner et de durcir un certain nombre de mesures que nous sommes en vigilance permanente et en mobilisation générale aussi de la part des gens, puisqu'on a demandé aussi aux Français d'être attentifs.
Mais ça paraît quand même assez incompréhensible, parce qu'on est en présence là-bas d'un variant très virulent sud-africain qui n'est pas présent à cette échelle du tout sur le reste du territoire. Donc pourquoi ne pas simplement, comme le disent les élus, jouer le principe de précaution? Et
moi, je suis pas ministre de la Santé, donc je fais vraiment confiance pour le coup au ministre de la Santé, à Olivier Véran. Il s'est rendu sur place. Qu'est-ce qu'on nous aurait dit si on avait pris des mesures depuis Paris sans déplacement du ministre? Donc je crois que...
En l'occurrence, c'est un peu le sentiment que ça donne. Les élus, mais voilà. Beaucoup de médecins sur le terrain.
Le gouvernement était présent sur place.
Jean Rottner, lui-même, dit il faut confiner. On n'entend pas les élus, c'est la décision qui doit venir du ministre.
Le ministre était sur place,
oui,
avec les élus,
avec le préfet.
Ouais. Ils ont été entendus, écoutés sur un certain nombre de points. Il y a des mesures proportionnées qui ont été prises, un renforcement, comme je vous l'ai dit, de la vaccination et du nombre de tests. Je ne peux pas vous dire autre chose. Après, j'entends les élus qui veulent
c'est
un peu
plus
de sauvegarde.
Ce sont les positions vraiment contradictoires à la fois des élus locaux et du gouvernement.
Oui, mais on est dans une situation... Encore une fois, on regarde l'épidémie au jour le jour. Il y a des situations qui sont compliquées, mais il va falloir, et on va en parler pendant cette heure de discussion, aussi vivre avec ce virus.
Oui, bien entendu.
Vivre avec ce virus. Donc, regardons les chiffres. Les chiffres ne sont pas, a priori, si alarmants que ça. On regarde spécifiquement la situation de la Moselle, parce qu'elle est effectivement inquiétante dans la disproportion que peut prendre le variant dans ces dernières semaines. Et il y aura des mesures qui seront prises si jamais il y a un danger et un risque pour la population. Ça,
alors,
c'est une certitude.
Stéphane Séjourné, vous êtes député européen, donc vous êtes évidemment en contact et aux premières loges avec l'ensemble de nos voisins, nos partenaires. L'Allemagne prolonge le confinement jusqu'au 7 mars. Pourquoi y a-t-il autant de concertation et si peu de coordination ?
On est dans des situations différentes et on a fait des choix politiques différents aussi. La France a décidé de reconfiner dans la deuxième vague, qui a d'ailleurs a permis à pas mal de Français d'aller dans leur famille en vacances. L'Allemagne, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas de tous nos voisins. Et on est dans une situation épidémique aussi différente. L'Allemagne était dans une hausse épidémique très importante il y a encore quelques semaines. Ça commence à descendre avec certaines mesures de freinage qu'ils ont pris très, très fortes, avec un confinement très dur en Allemagne. L'Allemagne se pensait d'ailleurs assez loin des mesures prises par l'Italie, l'Espagne, la France. Et donc on a pris ces mesures bien avant les Allemands. On est dans une situation différente, sur un plateau maintenant descendant depuis deux semaines, avec encore cette semaine 9% de baisse
en Allemagne,
de l'épidémie. En France, aujourd'hui, en France, on est dans une situation différente que l'Allemagne. Donc oui, il y a une coordination sur les frontières, mais chacun est maître aussi, pour le coup, de ces mesures de freinage.
Nicolas Barré.
Est-ce qu'au fond, la décision de ne pas reconfiner s'explique pas tout simplement par le coût, 15 milliards d'euros par mois? C'est ça qui a emporté la décision, vous pensez ?
C'est ce que dit Bruno Le Maire.
Je pense que la décision de reconfiner, de ne pas reconfiner, est liée à toutes les composantes qu'a doit décider le politique au moment de prendre cette décision. On sait les impacts qu'a un reconfinement sur la psychologie des Français, sur l'économie, sur nos vies du quotidien. On parlait des jeunes. C'est difficile aujourd'hui d'être jeune. On demande à cette génération. Je pense que c'est la génération où on demande le plus en ce moment. On demande de se priver depuis un an de sa vie sociale. Il ne faut pas que ça soit une génération sacrifiée non plus. Donc tous ces éléments et ces composantes rentrent. Et il y a un chemin pour ne pas reconfiner. Le président l'a dit. Il va falloir qu'on soit très clair, puisque c'est la mobilisation de l'ensemble des Français qui permettra de ne pas reconfiner. Mais en même temps, s'il y a des décisions à prendre, eh ben on les prendra. Et depuis le début de la crise, le président comme le Premier ministre ont fait face directement dès qu'il y avait des décisions difficiles à prendre et ont pris leurs responsabilités, même si ce n'était pas des décisions très populaires à prendre. Mais on est là en responsabilité.
Mais en même temps, on entend qu'il y a des débats, des divergences au sein du gouvernement. Alors, elles ne sont pas officiellement validées, mais enfin, beaucoup de ministres se sont répandus pour expliquer qu'il y avait les pros, les anti-confinements, que du côté de Matignon, on aurait préféré confiner. Est-ce que, aussi, cet enjeu politique ne ramène pas à une pratique un peu solitaire du président de la République, telle que beaucoup de ministres l'ont exprimé ces jours-ci?
Vous savez, le nombre d'heures qui ont été passées au Parlement sur l'état d'urgence sanitaire, le nombre d'heures qui sont passées en délibération du Conseil de défense et du Conseil des ministres, le nombre d'heures que passe chaque ministre avec son secteur d'activité, avec une grosse écoute qui est faite aux syndicats, aux professionnels. Demandez aux professionnels, d'ailleurs, aux petits commerçants, si le ministre de l'économie ne les reçoit pas toutes les semaines. Donc, il y a énormément de concertations. Tous les chiffres sont mis sur la table au moment de la décision politique. Donc, non, c'est faux. Il n'y a pas de décision qui soit prise dans un bureau, sans chiffres, sans objectiver une situation sanitaire.
Vous diriez qu'il y a un nouveau savoir-faire politique qui a été acquis. C'est-à-dire que L'année dernière, il y avait la sidération de ce que disaient les médecins et on les écoutait tout de suite sans coup férir. Là, maintenant, on intègre politiquement les approches
On a toujours intégré les approches des scientifiques. D'ailleurs, la constitution du Conseil de défense est à côté un organe pour conseiller le gouvernement avec le Conseil scientifique, a été là justement pour aider à la prise de décision. Cette prise de décision, on en apprend tous les jours, d'ailleurs on continue à en apprendre, puisque maintenant c'est le cas des variants qui nous occupent et qui nous inquiètent en France, en Europe et dans le monde. Donc cette approche qui consiste à écouter les médecins est depuis le début la boussole effectivement du gouvernement. Après, je vais vous dire une chose, c'est qu'on a beaucoup trop vu des politiques faire de la médecine et des médecins faire de la politique. Et je pense qu'il faut que tout le monde soit dans son rôle. Et tout le monde soit dans son rôle, ça veut dire que les médecins doivent nous aiguiller sur la situation sanitaire et que les responsables politiques doivent prendre des décisions qui concernent la vie de millions de gens. Et quand on prend des décisions sur la vie de millions de gens, eh ben, on prend des décisions qui sont pas que la situation sanitaire. On regarde la situation psychologique du pays. Il y a énormément de consommation de psychotropes aujourd'hui en France. C'est en augmentation. Il y a un sujet en France là-dessus. On regarde la situation économique. Toutes ces dimensions sont prises en compte.
On se retrouve en quelques instants avec Stéphane Séjourné.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré,
Johan Usaï,
Mickaël Darmon.
Et l'on retrouve Stéphane Séjourné, président du groupe Renaissance au Parlement européen, conseiller spécial du président de la République. Question de Yann Ouzaï.
Oui, concernant cette crise sanitaire, Stéphane Séjourné, il y a les polémiques et puis il y a des chiffres qui, eux, sont très parlants. Ce matin, au moment où nous parlons, les Britanniques ont vacciné 22% de leur population. La France, seulement 3% de sa population. C'est vrai que côté britannique, on a plutôt l'impression d'un État qui fait preuve de beaucoup d'agilité. Et puis quand on regarde la France, on a un État qui a d'abord été en retard sur les masques, qui aujourd'hui est vraisemblablement en retard sur la vaccination. Qui est responsable de cette situation? Est-ce que c'est le politique ou est-ce que c'est aussi l'administration de la santé en France qui est défaillante?
Non, on croit à la coordination européenne et au cadre européen sur le vaccin. Donc on a décidé, il y a 6 mois, de commander, à 6 laboratoires avec des contrats différents, 6 laboratoires différents, de commander au niveau européen à 27 des vaccins. Il n'y a pas de problème de commande en Europe. Il y a 3,1 doses qui a été commandée par habitant au niveau européen. Donc il n'y a pas de sujet de commande. La Commission européenne a fait son job sur le nombre de vaccins, a commandé largement.
C'est la lenteur qui pose question.
Assez largement.
C'est la lenteur.
Après, si vous regardez, la différence avec le Royaume-Uni est assez flagrante parce que vous avez aussi une stratégie vaccinale différente. Quand vous regardez le nombre de doses en Europe qui ont été administrées, c'est à peu près 1% de la population européenne. C'est 0,67% au Royaume-Uni, moins qu'en Europe. Donc vous avez aussi une stratégie britannique qui est différente, qui est de dire on base tout sur la première dose. Et puis il y a une stratégie politique, il ne faut pas être dupe. Boris Johnson, il souhaite montrer que le Brexit est un élément de différenciation avec l'Europe et qu'ils ont bien fait de sortir de l'Union européenne. Et donc ils basent tout leur stratégie sanitaire sur une stratégie politique. Ça n'a pas été notre cas. Notre cas, nous on est dans une coordination européenne, on reçoit chacun avec la France, l'Allemagne et l'Espagne, l'Italie, le même nombre de vaccins au prorata de la population. On vaccine à notre rythme aussi, mais en suivant les consignes sanitaires pour le coup.
Alors, quand même, il y a une petite phase B hein, quand même de cette explication. C'est donc la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui cette semaine l'a expliqué, une forme de mea culpa. On écoute, on regarde.
Nous avons sous-estimé la difficulté liée à la production de masse. Il faut normalement 5 à 10 ans pour produire un nouveau vaccin. Nous l'avons fait en 10 mois. La science a dépassé l'industrie.
Alors c'est quand même un vrai mea culpa de la part de la présidente de la Commission. Alors elle a chargé Thierry Breton d'essayer de coordonner davantage les industriels. Enfin, il aura fallu 1 an pour que l'Europe se réveille sur le plan industriel.
Non, vous êtes dur.
C'est la réalité.
Vous êtes dur parce que,
comme
je disais, c'est pas un problème de commande. Et on a eu toute une polémique sur les commandes. Quand vous commandez quelque chose sur Internet ou en click and collect, vous signez un contrat de vente. À partir du moment où vous recevez pas le bien, est-ce que c'est vous qui êtes responsable ou si c'est votre producteur? Donc la Commission européenne, elle a un enjeu, c'est de mettre la pression sur le contrat pour que le contrat il soit exécuté. C'est ce qu'on a fait pendant cette semaine, c'est ce que d'ailleurs a fait Emmanuel Macron, Angela Merkel sur les laboratoires. On a mis la pression sur les contrats. Il y a un deuxième sujet qui est la production. Et la production, les lignes de production, on ne peut pas les inventer comme ça. Donc on va mettre en synergie un certain nombre de labos qui ne produisent pas de vaccins contre le Covid, mais qui ont des lignes de production et qui vont pouvoir produire le vaccin d'un concurrent.
Mais on aurait pu s'y atteler avant.
Mais Stéphane, c'est l'anticipation, ouais, écoutez, comme dit Nicolas Barré.
Ça fait trois semaines que le président de la République, que le gouvernement mènent des concertations pour justement faire ces synergies. On a réussi, il y aura quatre sites en France qui vont produire du vaccin. Mais pas du vaccin français, du vaccin qui est produit normalement à l'étranger. Donc on y arrive. Et vous avez cité assez justement Thierry Breton. Il a été mandaté depuis deux semaines par la présidente de la Commission pour mettre en synergie tous ces labos et faire des lignes de production partout en Europe et régler le problème de production. Après, je veux dire, la difficulté de la politique vaccinale, elle est aussi mondiale. En Europe, quand on regarde d'un point de vue européen, les 27 États membres sont dans la liste des 50 pays qui ont le plus vacciné au monde. La France est dans le tableau des 10 pays qui a le plus vacciné au monde.
Donc vous trouvez que finalement, l'Europe s'en sort bien?
Non, mais dézoomons un petit peu la situation aussi. On a beaucoup connu de critiques sur la situation européenne et la politique de commande. Moi, ce que je vois, c'est que si on n'avait pas fait ça, mais qu'est-ce qu'on nous aurait dit? Le ministre Olivier Véran qui serait en guerre avec le ministre allemand pour récupérer des doses. Vous imaginez la situation dans laquelle on serait aujourd'hui? Donc on est, si on regarde la situation mondiale dans des bonnes conditions, il faut qu'on augmente la production de vaccins, mais raison gardée sur les critiques.
Alors, les enjeux en Europe et l'Europe, ce n'est pas uniquement, donc, même si c'est très important évidemment, la crise sanitaire, hein, Stéphane Séjourné. On parle toujours d'Europe avec vous. Question du Hanouzaï.
Oui, parlons toujours de l'Europe. Que fait l'Europe précisément alors que la France s'est engagée au Sahel depuis maintenant 7 ans et que nous sommes bien seuls? Où sont les Européens dans cette aide qu'ils pourraient apporter à la guerre contre le djihadisme?
Bon, d'abord, ce qu'on fait au Sahel est essentiel pour notre sécurité, y compris en France et en Europe.
Il n'y a pas de doute là-dessus, hein, parce qu'on commence à entendre des militaires, des généraux qui disent « Oh là là, c'était une belle histoire, mais en réalité... »
Non, il n'y a pas de doute, parce qu'en plus, il y a des...
C'est pas vraiment la situation.
Je pense qu'il y a des résultats, et il y a à peu près 5 000 Français qui sont sur place, à peu près 2 500 à 3 000 Européens en dehors des Français. Il faut qu'on arrive à augmenter cette capacité et cette aide. Il y a les Grecs qui vont arriver, les Suédois aussi. Donc, il faut qu'on constitue effectivement une force d'intervention européenne à terme. On se bat pour l'Europe de la défense.
Ça fait longtemps qu'on entend ça. Hein.
Oui, il y a un sommet là qui va se tenir.
C'est une priorité française. Je suis parlementaire européen. On en a fait une priorité. Nathalie Loiseau préside la commission de la défense au Parlement européen. C'était un choix politique pour nous de mettre beaucoup de capital politique sur ce sujet-là. Donc, on y travaille. Il y a le Fonds européen de défense qui a été doté dans le budget européen de plus d'argent. Donc tout ça avance. Après, il y a un risque politique pour nous. C'est-à-dire que l'arrivée de la nouvelle administration Biden est aussi un risque, parce que il faut pas confondre alignement intellectuel et idéologique et alignement des intérêts. Et je pense que les États-Unis ont opéré un retrait tactique sur tous les théâtres d'opération.
Ils aident moins maintenant dans la lutte.
Ils aident moins dans la lutte, mais c'est pas lié uniquement à Trump. Hein. C'est un élément qui est arrivé déjà sous Obama. C'est plutôt profond. Donc il faut que on se coordonne plus au niveau européen, qu'on avance sur les questions de défense. Et attention au trompe-l'œil de l'arrivée de l'administration Biden.
Alors justement, à quoi se propose Nicolas Barré?
Alors précisément, l'administration Biden, Joe Biden, a décidé, ça a été une de ses premières décisions de président, de suspendre les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite à cause des massacres au Yémen, 270 000 morts, des civils, des femmes, des enfants massacrés. Une résolution a été soumise au Parlement européen pour suspendre aussi les ventes d'armes. Vous avez voté contre. Vous n'êtes pas sensible à cette situation humanitaire au Yémen, aux massacres qui sont perpétués là-bas?
Non, écoutez, j'ai dans cette situation, on a mis en place une régulation au niveau européen dans le cadre de des ventes d'armes. C'est un sujet qui est posé notamment sur l'Europe de la défense parce qu'il y a des synergies entre les armées sur ce sujet-là. Et on a fait le choix, justement, d'organiser au niveau européen le déploiement et une politique de vente d'armes communes. Donc c'est pour ça que j'ai voté contre, parce que
ça pose quand même problème ce qui se passe au Yémen, la façon dont les armes que nous avons vendues à l'Arabie Saoudite sont utilisées contre des populations civiles.
Et l'organisation justement politiquement de cette résolution marquait une difficulté pour nous, c'était que l'organisation militaire européenne doit suivre et donc on doit organiser les choses de manière plus globale au niveau européen.
Autre difficulté, un accord a été conclu entre l'Union européenne et la Chine sur les investissements. Il doit être approuvé par le Parlement européen. Il suscite beaucoup de réserves. On accuse l'Europe de ne pas avoir été assez ferme. Est-ce que vous allez voter cet accord avec la Chine ?
Non, je ne vais pas voter cet accord avec la Chine parce que je considère que le Parlement européen a dans ses mains un levier pour faire bouger justement la Chine. Je pense que la Chine tient à cet accord d'investissement entre l'Union européenne et la Chine. Il y a une situation des Ouïghours sur place, avec plus d'un million de Ouïghours qui sont internés dans des camps.
C'est pour cette raison que vous ne votez pas, Stéphane Séjourné ?
Je pense qu'on peut faire bouger la Chine sur un sujet, et c'est la France d'ailleurs qui a porté ce sujet, c'est qu'on peut faire ratifier à la Chine les conventions internationales sur le droit du travail. Et c'est une formidable opportunité pour nous.
C'est un vœu pieux pour que l'opinion à gauche vous entende ou c'est une réalité politique ?
C'est pas un vœu pieux, c'est une réalité politique. Il y a un vrai, véritable levier en termes de rapport de force avec la Chine à faire en ce moment au Parlement européen. Pour une fois, le Parlement européen doit ratifier un accord. S'il ne le ratifie pas, il n'y aura pas d'accord. Donc il faut qu'on se serve de ce levier et je pense sincèrement que là-dessus, les parlementaires européens ont un vrai rôle. Donc à ce stade, moi je ne peux pas voter un accord.
Mais le gouvernement français, lui, est pour cet accord.
Le gouvernement français, il est pour cet accord, mais il a introduit aussi la conditionnalité de la Convention internationale sur le droit du travail et je pense que c'est un objectif qu'on doit partager entre Européens.
On se retrouve dans quelques instants avec Stéphane Séjourné.
10h, 11h. Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré,
Johan Usaï,
Mickaël Darmon.
Et surtout Stéphane Séjourné, président donc du groupe Renaissance au Parlement européen, conseiller du président de la République. Le macronisme, 5 ans après, est-ce qu'on passe du en même temps à au tous dans le même temple, la même maison ? Question Nicolas Barré.
Alors, l'événement politique en Europe cette semaine, ça aura été la nomination de Mario Draghi, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, à la tête du gouvernement italien. Et la grande nouveauté, c'est la conversion de Matteo Salvini, donc de l'extrême droite italienne, à l'Europe. En France aussi, d'ailleurs, Marine Le Pen a mis de l'eau dans son vin sur les questions européennes. Alors, au fond, vous applaudissez ce type de conversion ou ça vous gêne ?
Pour les pro-européens qu'on est, oui, évidemment, on applaudit. Plus on a de pro-européens, et si les partis qui étaient des partis populistes nationalistes se convertissent à l'Europe, c'est peut-être la preuve aussi qu'on réussit quelques points en ce moment d'enjeu au niveau européen. Donc,
ça vous prive aussi
d'un
argument ?
Il y a plus de diable, comment un bon Dieu peut-il
exister ? Je suis un vrai pro-européen. Je pense qu'on a parlé de les questions sanitaires, on a parlé des enjeux de défense, on parlera sûrement des enjeux politiques. C'est bien la preuve que l'extrême droite et les nationalistes ont un problème d'attaque sur le niveau européen et qu'ils voient que, à 27, on est plus fort et ensemble, on est plus fort. Donc pourquoi pas se réjouir d'un changement de pied ? Après, l'arrivée de Mario Draghi est une bonne chose pour nous. C'est un vrai point d'appui, en tout cas pour les délégations italiennes au Parlement européen et pour le président de la République au Conseil. Donc les choses avanceront, je pense.
Jeudi soir, c'était le débat entre Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. On écoute, on regarde un extrait.
Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Madame Le Pen, je la sens un peu branlante, là, un peu molle sur les questions. Prenez des décisions fortes qui touchent les cultes, Madame Le Pen.
Madame Le Pen, Marine Le Pen, trop molle, dit Gérald Darmanin, qui est dans votre gouvernement, ministre de l'Intérieur. Vous, l'ancien socialiste, vous pouvez un petit peu sursauter, là, vous n'avez pas des sueurs froides ?
Non, moi, j'aurais pas utilisé ce terme, mais ce qu'a voulu dire Gérald Darmanin quand il dit à Madame Le Pen, vous êtes molle, c'est qu'elle était floue. Et que derrière, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Et on a retrouvé d'ailleurs Marine Le Pen très fidèle à elle-même.
En disant vous êtes trop molle, ça veut dire vous êtes trop flou. Qu'est-ce qui vous trouvez que c'était maladroit comme
Oui, on a vu une Marine Le Pen assez fidèle à elle-même, c'est-à-dire en se trompant dans les chiffres, étant floue, et en réalité, ce débat a été construit pour montrer qu'elle avait évolué par rapport au débat de la présidentielle. Et ce que dit Gérald Darmanin en creux, c'est qu'elle n'a pas beaucoup évolué et qu'elle est toujours dans une situation de flou idéologique.
Mais ça veut dire que c'est la même affiche qui revient. C'est au fond ce que vous cherchez à la fois du côté d'Emmanuel Macron et du côté de Marine Le Pen. C'est ce que beaucoup disent. C'est l'affiche que les deux souhaitent. Donc, quelque part, c'est ce que vous dites. C'est une fois de plus, c'est ou Macron ou le chaos mou.
Moi, ce que je constate, c'est que personne s'attaque à Marine Le Pen dans les oppositions et dans les responsables politiques qui jouent la présidentielle. Tout le monde pense qu'il faut décrocher Macron d'un éventuel deuxième tour s'il se représentait pour prendre sa place. Il y a une forme de cynisme parce qu'on nous renvoie systématiquement à nous le jeu entre Marine Le Pen et le président de la République. Mais regardez les positions publiques des responsables politiques. D'ailleurs, Cécile Duflot l'a dit la semaine dernière. Elle s'est étonnée que la gauche ne tape plus, entre guillemets,
et vous êtes d'accord avec
l'extrême droite. Ben oui, c'est pas que je suis d'accord, c'est que je le constate aussi. Aujourd'hui, tout le monde joue le deuxième tour face à Marine Le Pen. Et donc, il faudrait sortir du deuxième tour, éventuellement, et Emmanuel Macron...
Pardon, même Gérard Darmanin, l'a dit à la fin du débat, il a tensé aussi Marine Le Pen en disant « Vous n'êtes pas prête, dis donc, pour un débat
duo,
présidentiel. »
Sur le duo...
Il a installé aussi lui-même.
Sur le duo, un deuxième point, c'est que moi, je suis parlementaire européen. Je vois les pratiques démocratiques en Europe. Je parle souvent avec mes collègues européens. Quand vous êtes candidat à une élection présidentielle, à une élection législative, et que vous perdez, vous vous retirez. Et donc, on est dans un truc qui est totalement, qui marche sur la tête, où on va bientôt reprocher aux candidats sortants ou aux présidents sortants de se représenter, ou d'éventuellement regarder pour sanctionner son mandat une nouvelle candidature, parce qu'il ne faudrait pas un binôme
Marine Le Pen de se retirer parce qu'elle a perdu.
Ça fait trois fois que Mélenchon se représente, trois fois que Marine Le Pen se représente. Si vous voulez, à un moment donné, la bonne hygiène politique, et ça, là-dessus, je suis plus anglo-saxon que français, ça serait que les gens qui perdent l'élection se retirent et laissent la place aussi à une nouvelle génération. Si on est dans une situation bloquée en France avec systématiquement le même casting à l'élection présidentielle, c'est la responsabilité notamment de ces gens qui reviennent systématiquement à l'élection présidentielle.
Donc le dégagisme doit encore travailler, la poutre doit encore travailler, comme dit Édouard Philippe.
C'est une responsabilité collective, c'est aussi une responsabilité individuelle de ces responsables politiques qui ne veulent pas partir.
Est-ce que le Rassemblement National n'a pas gagné la bataille des idées quand même? Parce que ce soit Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen, qui mettent en avant les mêmes thèmes depuis au moins 20 ans, qui disent la même chose et qui aujourd'hui voient en partie, ou en tout cas en grande partie, le gouvernement aller dans leur sens. Ils ont gagné cette bataille-là, au moins.
Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. On ne va pas du tout dans leur sens.
Quand vous avez Gérald Darmanin qui dit à Marine Le Pen sur les questions liées au séparatisme, nous sommes plus durs que vous.
Non. Gérald Darmanin, il met en lumière le fait que Marine Le Pen a été floue pendant le débat. Évidemment que sur les sujets du Front National, on le combat, le Front National. Moi, c'est mon identité politique. On n'a rien à voir avec le Front National et son idéologie. Donc, ne mettez pas sur le même pied le fait que on traite un sujet qui est important, qui est le sujet de la sécurité dans la loi, et qui est plutôt un sujet populaire, parce que la sécurité des Français, c'est un sujet populaire, et les thèses du Front National et de l'extrême droite française.
Est-ce qu'elle est républicaine, Marine Le Pen? Christophe Castaner dit qu'elle est l'ennemi de la République. Vous diriez la même chose ou pas?
Oui, moi je pense comme Christophe Castaner. Je pense que c'est dangereux d'avoir Marine Le Pen au pouvoir et on va combattre Marine Le Pen. Ce que par contre je dis, c'est qu'il faut que les oppositions prennent leurs responsabilités là-dedans. Et qui ne joue pas uniquement le cynisme.
Nicolas Maré.
C'est aussi la vôtre quand même, parce que le bilan au bout de 4 ans de mandat, c'est quand même que Marine Le Pen est toujours aussi haut. Donc comment ça se fait que vous ayez échoué à la faire baisser?
Encore une fois, la responsabilité, je pense qu'elle est partagée. Si nous n'avions pas des oppositions qui passent leur temps à essayer de décrocher le président de la République des sondages et qui laissent tranquille l'extrême droite française, personne joue aujourd'hui. Le remplacement, on va dire, dans le jeu du deuxième tour de Marine Le Pen. Personne.
Donc vous pensez qu'effectivement, il faut assumer le fait de dire, comme le disait le président aux parlementaires en septembre 2019, c'est elle l'ennemi, c'est le Rassemblement national qu'il faut combattre, et on faut désigner en permanence le seul ennemi en politique, c'est
Marine Le Pen. Je pense que l'extrême droite, ça se combat sur le fond, des idées, du programme, pas par de l'incantation, en démontrant que leurs thèses, pour le coup, sont pas des valeurs que nous défendons et pas des solutions pour les Français. Oui, moi je continue à penser que c'est un des combats identitaires de ma génération et un des combats identitaires de mon groupe politique et de mon appartenance politique et de mon engagement politique. Je vais continuer à le faire, et c'est pas parce qu'il y a certaines oppositions qui nous disent « mais attendez, en les attaquant, vous faites le jeu » que nous, on va arrêter de défendre nos valeurs. Donc par contre, j'invite Olivier Faure, j'invite Xavier Bertrand à un petit... parce qu'ils ont double discours. Je regarde par exemple Xavier Bertrand dans Les Hauts-de-France, il demande un front républicain pour Les Hauts-de-France, mais par contre il attaque uniquement Emmanuel Macron sur le volet national. Participons aussi à l'attaque et à la bataille politique contre le Front National.
Alors, en ce qui concerne justement les solutions apportées aux Français, ce qu'on appelle l'aile gauche de La République En Marche, peut-être à laquelle effectivement vous pouvez vous référer, votre passé, demande des mesures pour réduire les inégalités. On voit qu'il y a des mesures qui ont été annoncées par le président de la République. Est-ce que ça va suffire à rééquilibrer au fond une politique que l'on sent très orientée à droite depuis le début du mandat?
Bon, d'abord, ce n'est pas un jeu d'aérobic, parce que je vois beaucoup ce champ lexical de jambes gauche, jambes droite,
expliqué
de rééquilibre.
Expliqué par les entourages.
Moi, je suis assez fier de
également,
ce qu'on a fait.
Et les élus. Hein.
Je suis assez fier de ce qu'on a fait sur le volet social et sociétal. Et je veux le réaffirmer. On a à la fois participé au pouvoir d'achat des Français avec des mesures de revalorisation d'un certain nombre d'aides, notamment sur les handicapés, sur la prime, sur l'emploi. On a énormément de dispositifs qui permettent de revaloriser tout ça. On a des mesures structurelles aussi sur l'égalité des chances. Il y a quand même 300 000 gamins qui sont en classe dédoublée aujourd'hui, qui ont un petit déjeuner gratuit à l'école. Tout ça, on verra les conséquences de ces politiques dans 10, 15, 20 ans peut-être. Mais c'est structurel.
Oui, sauf qu'ils vont quand même voter l'année prochaine, oui. Donc c'est le sujet.
Peut-être, mais en tout cas, moi je suis assez fier de toute cette partie sociale qu'on a fait. On a fait un plan pauvreté, il y avait 9 millions de pauvres quand on est arrivé en 2017. Un plan pauvreté qui a été proposé par le gouvernement, donc on s'est attaqué à la racine à cette question.
Journée, c'est pas exactement ce que vos anciens amis pensent. Vous avez aussi démarré en Macronie, si je puis dire, avec des amis venus également du Parti Socialiste, les Guillaume Chiche, les Aurélien Taché, d'autres. Ils ont quitté, ils sont partis, ils ont dit on s'éloigne parce que c'est pas assez de gauche pour nous. Donc eux se trompent?
Non, la promesse de notre campagne et les propositions et les mesures qu'on met en place, elles étaient connues en 2017. D'ailleurs, c'était peut-être un changement dans la vie politique française. C'est-à-dire qu'on disait ce qu'on faisait au moment de l'élection et on l'appliquait pendant le mandat. Donc il n'y a pas de surprise, en tout cas, pendant le mandat, de voir des dispositions ne pas s'appliquer. On l'a fait, on le dit, on l'a fait. Donc moi, là-dessus, je vais vous dire, je suis assez fier de ce qu'on a fait sur le volet social, et on va l'amplifier. Il y a des mesures qui ont été proposées, d'ailleurs individuelles, par le président de la République, sur l'égalité des chances.
Oui, vous avez dit individuel, c'est la discrimination positive, en fait. C'est l'émancipation individuelle qui est en cause, en enjeu, et non pas, au fond, une dimension collective de l'égalité des chances.
Il y a les deux. Il y a du structurel. Je vous ai évoqué un certain nombre de mesures. Et il y a de l'individuel, parce qu'il y a des gens, pour ce qui est des propositions du président de la République, qui veulent participer à l'intérêt général, rentrer dans la haute fonction publique, qui sont aujourd'hui entravés par de l'entre-soi et de la reproduction sociale. Et c'est à ça aussi qu'on...
En clair, il faut qu'il y ait plus de personnes qui soient issues des quartiers populaires, qui entrent dans les grandes écoles.
Oui, moi je crois à ça.
À l'ENA, comme on l'a vu à
Je crois à ça,
Po,
et c'est des mesures complémentaires de tout ce qu'on a pris sur les mesures structurelles, sur l'émancipation, sur la sortie d'assignation à résidence. On a mis en place aussi les emplois francs. Il y a plus de 700 quartiers en France qui bénéficient de ces mesures d'emplois francs, avec des employeurs qui peuvent être aidés s'ils veulent recruter des gens de ces quartiers. Donc, Il y a des choses qui sont faites. Il faut le rappeler. Alors si, effectivement, nous, on ne le rappelle pas, personne ne le fait à notre place. C'est notre rôle. Et c'est le rôle de la majorité aussi de défendre ces mesures.
Et elles les défendront bientôt dans une campagne régionale. On se retrouve avec Stéphane Séjourné dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré,
Johan Usaï,
Mickaël Darmon.
Dernière partie de ce grand rendez-vous avec Stéphane Séjourné, président donc du groupe Renaissance au Parlement européen. Question de Johan Usaï sur les élections régionales.
Oui, qui auront lieu au mois de juin prochain. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que La République En Marche est en capacité de gagner une région ou est-ce que vous êtes là pour faire de la figuration?
Bon, déjà, moi, je pense qu'il y a un enjeu national. J'assume l'enjeu national de cette élection.
Ce sont des élections régionales. Hein.
Oui, mais il y a un enjeu national parce que ce sont des collectivités d'investissement qui ont beaucoup d'argent plus une compétence économique. Ce sont des collectivités de planification. Je prends par exemple le sujet de la région Île-de-France, c'est 33% du PIB français, c'est 5 milliards d'investissements, 7,5 milliards sur les transports. Il y a un enjeu de relance derrière, très clairement, avec un plan de relance européen, un plan de relance national. Il faut que les collectivités tirent la relance. Donc il y a un enjeu national évident dans cette élection. Après, il y a certains qui ont décidé de présidentialiser l'élection, enfin leur propre élection. Je pense à Xavier Bertrand dans le Nord, au parti Valérie Pécresse. En Ile-de-France.
C'est-à-dire que pour eux, ils considèrent que c'est le premier tour de l'élection présidentielle.
Bah, pour moi, ce n'est pas le premier tour, évidemment, de l'élection présidentielle. Par contre, il y a un vrai enjeu national à ce que ces collectivités, et ça va être le rôle de nos candidats, dans cette élection, puisse porter un projet d'accélération de la relance en lien avec tout ce qui s'est fait au niveau national. Et il faudra d'ailleurs mobiliser
les
électeurs autour de ça.
Mais vous ne répondez pas à la question, d'ailleurs. Est-ce que vous pensez gagner une région ?
Est-ce que vous assumez aussi aujourd'hui le fait de dire clairement à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent qu'aucun des candidats dont vous parlez n'est en capacité aujourd'hui de gagner une région ?
Mais vous en savez quoi ?
Non, on pose la question, quelle est votre analyse, votre estimation ?
Non, oui, moi si on va aux élections, c'est pour les gagner, c'est pour participer aux majorités. Alors, il y a différentes options pour participer aux majorités. Et puis, ce que je disais, dans les enjeux économiques qu'il y a derrière, on peut participer, on peut gagner la région. Moi, je ne suis pas pour arriver sur cette élection en disant on est défaitiste. On ne créera jamais de dynamique. Si, je pense qu'il y a une dynamique qui peut se trouver
alors,
derrière les enjeux.
À propos de dynamique, Christophe Castaner, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, dit ce matin aux Parisiens qu'il ne sera pas candidat dans la région sud, hein, ce qu'on appelait à l'époque la région PACA. Donc tout le monde un peu se défile. Il appelle à soutenir Bruno Muselier, donc il y a une alliance là avec LR. Donc elle est où la dynamique de la gagne que vous...
Il y aura partout dans toutes les régions des candidats de la majorité présidentielle. Ça a été un des engagements de Stanislas Guérini dans l'organisation et dans la stratégie de ces élections régionales. Encore une fois, il y a des enjeux qui sont importants pour les Français derrière. Ce n'est pas qu'une question politique, ces élections régionales. Donc, c'est bien de le mettre en lumière. Deuxièmement, moi, je suis pour que partout où on a une liste, pour qu'on se maintienne, qu'on regarde si un maintien est possible. Partout où on ira au premier tour. Et il y a deux tours dans cette élection. Donc là, le sujet pour la majorité, c'est d'être le plus haut et le mieux placé au premier tour. Et contrairement à ce que j'entends, il ne faut jamais regarder en forme de pendulier l'élection d'avant et la translader dans l'élection d'après. Donc beaucoup de commentateurs de la vie politique regardent l'élection municipale en disant « vous n'allez rien faire aux élections régionales ». Attention, cette élection, elle est beaucoup plus complexe, elle est très politique, elle a beaucoup d'enjeux économiques, et je pense que la majorité, pour le coup, aura des propositions à faire qui seront très intéressantes pour les franciliens, pour les bretons, pour un certain nombre de régions.
Ou les gens du Nord, elle est à un an également de l'élection présidentielle. Nicolas Barré.
Oui, et là où on a un sujet à la fois régional et national, dans les Hauts-de-France, avec Xavier Bertrand, est-ce qu'il faut... le soutenir face au Rassemblement National ou prendre le risque de le faire battre ?
Ça, on verra. Et encore une fois, moi, je veux pas anticiper les choses qui peuvent ne pas arriver. Donc, on va voir d'abord le premier tour, et puis on vous donnera une réponse au deuxième tour.
Donc, je vais pas vous faire battre.
Mais je vais pas vous expliquer aujourd'hui que on va aller se retirer notre liste, évidemment, face à Xavier Bertrand. Moi, je suis pour qu'on se maintienne partout où on peut se maintenir. Évidemment, il y aura des spécificités.
Ce serait un dilemme quand même.
Évidemment, il y aura des spécificités son projet
d'être candidat à l'élection présidentielle.
L'extrême droite, la présence de l'extrême droite, le risque du Front National sur cette élection. Mais chaque chose en son temps. Et là, on est dans une problématique de premier tour. Et puis, on reviendra vers vous au deuxième tour pour vous expliquer la stratégie et ce qu'on propose aussi aux habitants des régions.
Alors, on en profite parce que vous êtes un candidat, non seulement vous êtes également, on l'a dit, député européen, pas candidat, mais vous êtes conseiller. Du président de la République, vous réfléchissez avec lui, on l'a dit, au contour de la campagne présidentielle et vous avez forcément des analyses sur les uns et les autres. On parle à l'instant de Xavier Bertrand, on entend beaucoup que c'est lui qui, à droite, est considéré par vous, par l'Élysée, par l'entourage macroniste, pour dire c'est celui qui peut vraiment nous mettre en difficulté. Est-ce que c'est vrai que vous pensez cela et quelle est votre analyse ?
Bon, d'abord, on ne connaît pas l'offre politique de la présidentielle. Et par ailleurs, moi, je souhaite que le président soit candidat à sa propre élection. Mais encore une fois, ça sera à lui.
Est-ce que vous voyez une cohérence dans les offres droite et gauche qui se mettent en place
Je tenais quand même à rappeler, avant de rentrer dans ce débat, que le sujet actuel, c'est la crise sanitaire, c'est les préoccupations des Français. Et quand on parle avec le président, et quand je parle en ce moment avec le président de la République, on traite les sujets sanitaires et politiques autour de la crise et pas les questions électorales.
Vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a aucune réunion, aucune discussion consacrée à ce qui va se passer en 2022.
Je tenais quand même à vous dire que ce sujet de la présidentielle est très loin pour le président. Voilà.
On entend. Mais quand même, c'est dans un an et ça ne se prépare pas en 5 minutes. Donc, est-ce que pour vous, les offres qui sont en train de se réfléchir à droite et à gauche dans ces anciens partis de gouvernement, est-ce qu'elles peuvent aujourd'hui avoir une cohérence et faire ressurgir ce clivage droite-gauche ?
Je pense que le constat qu'on faisait en 2017 est toujours aussi vrai. C'est-à-dire que la droite est très très fracturée sur des sujets qui sont essentiels dans le débat politique aujourd'hui et qui sont centraux dans le débat politique européen et national. La relation à l'Europe. Entre les Verts et la France Insoumise, si je prends la gauche, la relation à la République entre les Verts et le Parti Socialiste. Moi, j'attends de voir ce que pourrait donner un éventuel contrat de gouvernement autour de ces formations politiques. J'ai du mal à l'apercevoir, parce que justement, en 2017, on avait fait le constat qu'il fallait que des gens de bonne volonté qui ont toujours voté à droite et des gens de bonne volonté qui ont toujours voté à gauche puissent participer à un moment donné à l'exercice du pouvoir avec un programme, avec quelque chose de cohérent, pro-européen, libéral sur les valeurs économiques et sociales. La question du progressisme qu'on avait essayé aujourd'hui de théoriser, la question de l'émancipation, tout ça sont des valeurs qui nous réunissaient. Une partie de la droite, pas toute la droite évidemment, et une partie de la gauche. C'était un programme cohérent. Aujourd'hui, je vois pas trop, et je vous le dis sincèrement, comment ces gauches irréconciliables, pour reprendre le terme de Manuel Valls, font pour créer un programme de gouvernement, parce que la question de la présidentielle et la question du scrutin national, c'est d'abord le fond, c'est d'abord les propositions qu'on fait aux Français.
Mais ce sera aussi le bilan d'une action et le bilan d'un lien avec les Français. Emmanuel Macron, quand il dit, quand on connaît ses sorties, son esprit tranchant et la dernière sortie en date sur les 66 millions de procureurs, comment on fait pour expliquer que c'est en fait très sympa ce qu'on dit là ?
Moi, je fais partie des 66%, je crois, c'est le dernier sondage qui est tombé, des Français qui pensent que le vieux clivage gauche-droite des années 80 est dépassé, entre les étatistes d'un côté, les libéraux de l'autre. Et si votre question, c'est de savoir comment on redonne envie et comment on redonne... on mélange le bilan et la dynamique. Évidemment qu'une campagne présidentielle, c'est une dynamique en soi et qu'on le retrouvera sûrement au moment de la campagne présidentielle. Il y aura sûrement des enseignements aussi à tirer de différentes crises qu'on a vécues. Vous savez, on est arrivé en responsabilité, on avait une France qui a terriblement été fracturée. La réalité politique de l'élection présidentielle, du premier tour de la présidentielle, c'est 40% entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. 40% des voix.
Oui, mais après, il y a toutes les crises successives, vous l'avez dit. Justement, Nicolas Barré, pour essayer de faire évoluer ce système.
Il y a une constante dans la vie politique française, c'est François Bayrou qui réclame depuis toujours de la proportionnelle. Alors, vous y êtes favorable ou vous craignez que ça fasse le jeu du Rassemblement national ?
Non, moi je suis... D'abord, on l'avait proposé, hein. Parce que j'entends beaucoup de commentaires, mais on avait proposé toujours, la dose de proportionnelle au moment de la réforme institutionnelle. Et cette dose de proportionnelle, elle a été bâchée par le Sénat et bloquée à un moment donné. Donc, on l'avait proposé. Deuxièmement, moi, je suis toujours en ligne avec la proposition du président de la République et de 2017. Je suis pour la dose de proportionnelle.
C'est peut-être lui qui est moins en ligne avec sa propre
non,
proposition.
Je ne pense pas. Il est toujours en ligne. Troisièmement, Le MoDem a fait une proposition qui n'est pas totalement d'ailleurs la proposition de la dose proportionnelle, parce qu'on n'aura sûrement pas le temps de faire du redécoupage derrière, on rentre dans la technique. Mais moi, je reste favorable à la proportionnelle, très clairement. Et donc, s'il y a à étudier la proposition de loi du MoDem et qu'elle est en mise en discussion, je serai d'accord pour la voter.
En quelques secondes, sur quoi, parce qu'on bien sûr, on en reparlera avec vous, quels sont les grands clivages sur lesquels cette campagne de 2022 va se fonder ?
C'est difficile à dire, parce que pour l'instant, la crise sanitaire n'est pas définitivement terminée. Après, j'ai une véritable intuition, c'est qu'on aura sûrement une campagne très empirique, puisque dans les constats et dans les enseignements des crises successives qu'on a connues. On a eu la crise des Gilets jaunes, on a eu la crise sanitaire. La France, à mon avis, a beaucoup de force dans cette crise parce que notre modèle a résisté. On a quelques faiblesses qu'il faudra rectifier. Et donc, c'est dans ces faiblesses-là qu'il faudra proposer quelque chose et un nouvel élan. Mais ça s'organisera après.
Le nouvel élan, ça semble comme un nouveau slogan qu'on avait déjà entendu. Merci, donc Stéphane Séjourné, c'était votre grand rendez-vous. Merci à Nicolas Barré, à Yoann Ouzaï, à Isabelle Moreau et Jean-Luc Herblade. À très bientôt. Europe 1.